Il est très précisément 19h. Le journal. Bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Le très mauvais temps et les pluies abondantes dans une dizaine de départements. L'eau déborde dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance rouge au cru. Une partie du centre-ville de Bayonne est sous l'eau. Des évacuations sont en cours. Nous serons à Bayonne dans un instant. La gauche sur répondeur Arnaud Montebourg tente le tout pour le tout. Il a appelé aujourd'hui les candidats de gauche à la présidentielle pour trouver un projet commun. Personne n'a décroché. L'épidémie de coronavirus qui continue de progresser, le plan blanc déclenché aujourd'hui dans les hôpitaux de la région des Hauts-de-France. Ce soir, la Haute Autorité de Santé rejette l'utilisation de l'antiviral Molnupiravir. Dans ce journal également, la visite à Paris du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, le procès des attentats du 13 novembre avec la famille de l'un des terroristes du Bataclan à la barre aujourd'hui. Et le meilleur joueur du monde de rugby cette année est français, Antoine Dupont, demi-mêlée du 15 de France et de Toulouse. À 19h20, le téléphone sonne et vous faites quoi, Claire, ce soir?
Vous êtes bien curieux, dites-moi Frédéric, mais si on en croit une étude du Crédoc sur le vendredi soir idéal des Français, la tendance est au repas en famille, à la maison. C'est le soir de la semaine où l'on consomme le plus de pizza, figurez-vous, soirée pizza canapé, voilà la recette du vendredi soir. Globalement, nous sortons de moins en moins, la pandémie est passée par là, mais la tendance était déjà enclenchée entre télétravail, séries et livraison à domicile. Nous sommes de plus en plus casaniers avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le lien social. Alors, dites-nous ce que vous en pensez au 01 45 24 7000.
France Inter. Vigilance rouge au cru pour des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et l'inquiétude ce soir dans ces deux départements. 4 communes des Landes ont dû être évacuées, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pluies abondantes, le vent, la neige font déborder de nombreux cours d'eau. Et à Bayonne, la rivière La Nive a quitté son lit. Et dans le centre-ville, elle atteint des niveaux records. Sur place à Bayonne, Paul Nicolai.
Le roulement des eaux marrons assourdissant dans le centre-ville de Bayonne. Le débit est impressionnant et le niveau de près de 6,5 mètres a dépassé de plus d'un mètre ceux déjà élevés de 2014 et 2018. De quoi laisser perplexes les passants, nombreux à immortaliser la scène avec leur téléphone portable.
J'ai déjà vu des choses comme ça, mais alors vraiment avec une violence pareille, non.
Bah honnêtement, ça a fait un petit peu peur de voir qu'il y a autant d'eau là. Enfin, on se dit mince quand même. Donc ouais, c'est assez impressionnant, oui.
Certaines parties de la route le long du fleuve sont coupées en raison des inondations. Les commerces ont dû fermer. Thomas, à la tête du petit bistrot, est le seul encore ouvert, mais les clients sont rares.
J'ai compté tout à l'heure presque 80 réservations ce soir qui ont annulé. Donc oui, ça a du chiade. J'ai deux réservés ce soir, j'en avais presque 80. Donc ça, c'est un peu triste.
Un dispositif de sécurité est mis en place par les services techniques de la mairie de Bayonne. Maëlys est technicienne, elle dirige une équipe, mais a bien du mal à s'adapter à une situation compliquée.
Initialement, nous étions venus pour donner un coup de main aux commerçants qui allaient subir les dégâts à cause de la crue. On attendait la décrue pour pouvoir les aider à passer la raclette dans les commerces, mais la décrue n'est pas encore arrivée.
La décrue de la Nive se fait attendre et avec la tombée de la nuit, l'inquiétude persiste.
Paul Nicolai de France Bleu, Pays Basque. 2 départements en rouge pour crue, 7 en vigilance orange pour pluie, inondation. On parlait donc des Landes, où 4 communes ont dû être évacuées. Bonsoir Magali Aumont.
Bonsoir.
Une personne a été blessée, pas d'accident grave, mais les pompiers multiplient les interventions.
Particulièrement sensible dans les Landes, le tronçon du Bec du Gave, où les débordements vont se poursuivre cette nuit. Dans la ville de Peyrehorade, on pourrait atteindre des niveaux équivalents à ceux de juin 2018. Toujours dans le sud-ouest, le Béarn fait face également à de fortes pluies en 24 heures. La Reims a atteint des records dans cette commune au cœur de la vallée d'Ossau. L'eau ruisselle dans les rues. 140 millilitres sont attendus cette nuit. Une partie des habitants a donc été évacuée. Météo France s'inquiète par ailleurs des risques d'avalanche pour 7 départements dans les Pyrénées et les Alpes. Après de fortes chutes de neige, la Savoie et la Haute-Savoie ont en plus été placés en vigilance. Orange, neige, verglas. Des restrictions de circulation sont de rigueur pour les poids lourds en transit vers l'Italie. Dans la station de ski de Megève, la mairie a appelé les habitants et saisonniers à évacuer leur maison. 50 cm de neige sont attendus au-dessus de 1200 mètres d'altitude.
Et le ministère de l'Intérieur vous demande d'être extrêmement prudent si vous devez vous déplacer. Merci Magali Aumont.
La vidéo sur les réseaux sociaux et sur Twitter peut paraître très surprenante.
50 secondes, souvent très silencieuses. Arnaud Montebourg a téléphoné aujourd'hui au candidat de la gauche à la présidentielle. Il a appelé Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Personne n'a décroché, il est tombé sur leur répondeur. L'objectif de ces coups de fil était de provoquer une réunion des candidats, des différents candidats de gauche pour tenter de trouver un projet commun à base de compromis. Bref, de tenter le tout pour le tout pour sauver la gauche, Laurence Perron.
Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg.
Non, Fabien Roussel ne répond pas. Le patron du Parti communiste l'a déjà fait avant-hier. Si tu veux venir faire campagne avec moi Arnaud, bienvenue, mais moi, je reste candidat.
Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile.
Non, Jean-Luc Mélenchon ne répond pas. Il préfère tweeter contre la proposition de la primaire de la maire de Paris. Je cite, « Pour savoir de quel blocage absurde Hidalgo est capable, il suffit d'essayer de circuler dans Paris. »
Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle. Tu as mon téléphone, rappelons-nous. Amitié.
Non, Anne Hidalgo n'est pas dispo. Les anciens camarades du PS finiront finalement par se parler un peu plus tard. Ça tombe bien, ils sont d'accord sur tout, mais à deux, ça ne suffit pas.
Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va.
Non, Yannick Jadot ne répondra pas. Il considère qu'en avril, il a déjà tendu la main. Qu'une primaire, il y en a eu une, il l'a gagnée. Chez les écolos pourtant, notamment dans le camp Rousseau, certains sont tentés. L'élue parisienne Alice Coffin voit dans l'organisation d'une telle consultation une manière de mettre sous le feu des projecteurs les propositions de la gauche, dans ce moment où, dit-elle, l'extrême droite dicte son agenda médiatique. D'autres, comme l'ancien patron des Verts, l'eurodéputé David Cormand, se désespèrent. Le PS ne veut pas mourir seul, il veut entraîner tout le monde dans sa chute, on ne les suivra pas dans le cimetière des éléphants.
La propagation vitesse grand V de l'épidémie de coronavirus et du variant Omicron avec 59 cas désormais détectés en France et un objectif face à l'épidémie, 20 millions de rappels d'ici Noël. Olivier Véran indique que la dynamique vaccinale permet d'atteindre l'objectif de vacciner 20 millions de Français avec une dose de rappel dans les 15 prochains jours. 12,5 millions de Français ont déjà reçu leur dose de rappel. Le ministre de la Santé estime également qu'on se rapproche sans doute du pic de l'épidémie. Dans les hôpitaux, le plan blanc a été déclenché aujourd'hui à l'ensemble de la région des Hauts-de-France et à Lyon. Entre 30 et 50% des interventions chirurgicales sont déprogrammées depuis le début de la semaine. Et on apprend ce soir que la Haute Autorité de Santé rejette l'utilisation du molnupiravir. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Il s'agit d'un antiviral du laboratoire Merck.
Oui, le Lagevrio, plus connu sous le nom de molnupiravir, c'était un peu la pilule miracle, un antiviral présenté comme le premier traitement par voie orale véritablement efficace. Les premiers résultats parlaient d'une réduction de 50% des formes graves, mais des données publiées plus récemment par le laboratoire Merck étaient déjà beaucoup moins concluantes, avec une efficacité revue à 30%. La Haute Autorité de Santé considère dans son avis publié ce soir que le molnupiravir ne remplit pas les critères nécessaires pour obtenir une autorisation d'accès précoce. La présomption d'innovation ne peut être retenue, écrit-elle. Les résultats d'efficacité avancée par le laboratoire sont moins bons que ceux des traitements disponibles. 30% de réduction des formes graves contre 80% pour les anticorps monoclonaux comme le Ronaprev, déjà administré en France depuis plusieurs mois. La Haute Autorité de Santé estime même que l'accès au molnupiravir en ville risquerait d'induire une perte de chance pour les patients. La France avait précommandé 50 000 doses. La Direction Générale de la Santé annonce ce soir que le déclenchement des commandes n'était prévu qu'uniquement en cas d'autorisation précoce de déploiement, ce qui n'a donc pas obtenu. La Haute Autorité de Santé a en revanche donné son feu vert à un troisième traitement, Evusheld d'AstraZeneca, une association d'anticorps monoclonaux pour des patients à très haut risque de formes sévères de Covid-19 et qui ne répondent pas bien à la vaccination, un traitement administré en prévention par voie intramusculaire.
Hélène Chevalier, merci. Et dans cette sale période où les Français se disent tous fatigués après presque 2 ans de Covid, selon un sondage Ipsos, Fondation Jean Jaurès, il est en plus interdit de danser depuis aujourd'hui dans les bars et les restaurants. Et en plus, les discothèques de France ont fermé pour au moins 4 semaines. Au micro de Victor Vasseur, parole de DJ confronté à un nouveau coup d'arrêt.
Depuis la fin de l'été, l'agenda de Léo et de son collectif de DJ recommençait à se remplir.
Le terrain de jeu l'hiver, c'est le club. Et si on nous le ferme, ben effectivement, on n'a pas la possibilité de jouer.
À cause de la fermeture des discothèques, déjà 2 dates sont annulées. Pour Silver, jeune DJ de 33 ans, c'est un vrai coup d'arrêt. Il vient même de reprendre un travail dans une salle de sport.
Moi, je vivais justement de la musique. Enfin, je commençais tout juste à vivre de la musique et mon projet se lançait merveilleusement bien. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu dur de J'ai l'impression de repartir à la case départ.
Avec son bob militaire, derrière ses lunettes oranges, Lazy Flow paraît un brin désabusé. Il commence juste à vivre de sa musique.
Bah, tu te remets grave en question, tu penses à changer de métier, limite. Alors que c'est la seule chose que tu sais faire et qui te passionne, qui t'anime, que tu maîtrises, pour lequel tu as dédié toute ta vie et ta carrière. Ça met des gros doutes parce que nous, on se disait que le vaccin sauverait un peu la situation et c'était un peu notre dernier espoir. Et là, on se dit, bah, en fait, c'est quoi l'espoir?
Lazy Flow qui passera un nouvel an entre amis et non sur scène comme prévu.
Et puis en Allemagne, le Parlement a adopté aujourd'hui l'obligation vaccinale pour les soignants. L'obligation vaccinale tout court sera débattue par les députés allemands d'ici la fin de l'année.
Pour sa première visite à l'étranger, Olaf Scholz a étrenné son costume de nouveau chancelier allemand à Paris.
Rencontre avec Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Macron et Scholz, main dans la main, pour maintenir la croissance européenne engendrée par le pacte de relance post-Covid. Et Emmanuel Macron compte également sur le soutien de Berlin pour concrétiser une série de chantiers durant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre de l'an prochain. Bonsoir Marie-Pierre Vérot.
Bonsoir Frédéric.
Deux chefs d'État qui ont affiché leur entente.
Oui, et cela, Frédéric, dès le début de leur conférence de presse.
Cher Olaf, merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui pour ta première visite à l'étranger et je tenais à te féliciter en personne pour ton élection ce mercredi.
Voilà, cher Olaf, cher Emmanuel, tutoiement de rigueur et une solide convergence de vues, selon les termes du président français. Tout d'abord sur l'Ukraine face au déploiement de forces russes à la frontière. Tous deux ont dit leurs préoccupations et prôné une Europe forte, souveraine, avec la volonté de faire progresser la transition énergétique, la régulation numérique ou le salaire minimum européen. Pour autant, quelques divergences sur la transition verte. On sait que l'Allemagne va sortir du nucléaire quand la France, elle, veut s'appuyer sur l'atome. Le chancelier allemand a poliment noté que chacun poursuivait sa propre stratégie. Sur l'économie, entre la cigale française et la fourmi allemande, le président français ne cache pas qu'il faudra discuter.
C'est les débats que nous aurons dans les prochains mois. Pendant la crise, nous avons inventé un mécanisme nouveau, celui d'un endettement commun pour lever des investissements inédits. Je pense que nous avons besoin de la même capacité à innover, à inventer des solutions adaptées pour accompagner la période qui vient.
Alors innover, d'accord, mais attention quand même à garder des finances solides, répond le chancelier allemand.
Il s'agit de maintenir le niveau de croissance qui est revenu grâce au plan de relance, tout en veillant à la solidité des finances. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles.
Olaf Scholz qui a gagné Bruxelles juste après Paris, Frédéric, pour préparer le sommet de la semaine prochaine, Bruxelles, où il aura l'occasion de retrouver ce cher Emmanuel.
Et ce soir, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, auprès de qui il a réaffirmé sa détermination à préserver la souveraineté de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et Emmanuel Macron, l'Élysée a fait savoir que le président Macron s'entretiendra avec le président russe Vladimir Poutine dans les prochains jours. Jour 58 au procès des attentats du 13 novembre, la Cour d'assises spéciale de Paris a entendu aujourd'hui la famille de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan. D'abord le père, Asdin, puis la sœur, Maya Amimour, la sœur qui a été mise en cause car elle aurait financé le départ en Syrie de la jeune fiancée de Sami Amimour. En direct de la cour d'assises, on retrouve Sophie Parmentier. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Frédéric.
Mais la cour a d'abord entendu le père de Sami Amimour.
Asdin Amimour qui s'approche de la barre, dos voûté, col roulé moutarde, anorak des années 70 et d'une petite voix chevrotante, il commence à raconter son fils Sami, introverti, parti en Syrie en 2013 malgré un contrôle judiciaire et après avoir dit à ses parents qu'il allait en vacances dans le sud de la France. Et vous l'avez cru, ironise une magistrate de la cour et voilà ce père septuagénaire à la barre des témoins qui se retrouve traité comme un accusé. On l'accuse d'avoir menti durant l'enquête, en tout cas d'avoir donné plusieurs versions à propos de ce voyage en Syrie dont le récit est rocambolesque et lors duquel il aurait en effet tenté d'aller chercher son fils à l'été 2014. Y est-il vraiment allé ou pas? Une déferlante de questions acides s'abat sur lui et on souffle sur les bancs des parties civiles quand le père Amimour assure qu'il aurait croisé un émir qui lui aurait dit que son fils était dans la katiba des héros, ce fils avec qui il n'a jamais vraiment réussi à dialoguer, même avant qu'il ne quitte le domicile familial à Drancy, ce fils qui à 18 ans s'est mis à regarder des vidéos sur Ben Laden. Pourquoi ne pas lui avoir coupé internet? Clame un avocat de partie civile. Bah, parce que c'est pas facile avec un jeune adulte, rétorque le père. Et sa fille, Maya, lui succède en effet à la barre. Maya Amimour, qui admirait son grand frère Samy jusqu'à le soutenir. Mais 6 ans après les faits, je lui en veux. Je me sens honteuse par rapport au massacre, lâche-t-elle en fondant en larmes. Et un accusé se lève pour prendre sa défense. Ces gens-là, ils sont innocents. Ils ont pas à avoir honte, crie l'accusé Abrini, qu'on oblige à se rasseoir.
Sophie Parmentier avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Merci.
C'est un recensement qui a lieu tous les 10 ans, le recensement agricole en France métropolitaine.
Et la chute est sévère. 100 000 fermes ou exploitations ont disparu en 10 ans sur une baisse de 20%. En revanche, l'étude montre que la surface agricole est restée assez stable. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
Quelques points positifs malgré tout. L'intérêt pour le bio qui se confirme. Moins d'exploitations donc, mais plus de qualité.
C'est une des bonnes nouvelles de ce rapport. 36% des exploitations agricoles sont sous signe de qualité, plus 10% en 10 ans. Il y a le bio, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi l'IGP, l'AOP ou bien les labels. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, se réjouit de cette hausse.
La production sous signe officiel de qualité a fait un bond très important. Donc les modes d'alimentation changent aussi et les agriculteurs s'adaptent pour répondre aux besoins des Français.
Une bonne nouvelle aussi pour Nicolas Giraud, porte-parole national de la Confédération paysanne, qui appelle toutefois à la prudence pour ne pas créer une agriculture à deux vitesses.
C'est-à-dire qu'on ait une agriculture, entre guillemets, d'alternative, de niche, qui fasse de la qualité et qui nourrisse une partie de la population, celle qui a le choix de son alimentation, et une autre agriculture qui continue à industrialiser le modèle, à faire de l'agriculture et de l'alimentation à prix bas, et qui, celle-là, alimente toute une partie de la population de plus en plus importante, qui se retrouve en précarité alimentaire et qui n'a plus le choix de son alimentation.
Concernant le circuit court, le rapport nous apprend que 90 000 agriculteurs y ont désormais recours, soit 23% des exploitations, c'est 6% de plus qu'il y a 10 ans.
Kathleen Comte, et quant au bio, en 10 ans, de la part des exploitations en agriculture biologique a triplé, passant de 4 à 12%. Et en France, il y a désormais près de 50 000 exploitants bio. Merci à vous. C'est une découverte au musée de la chasse et de la nature. La découverte d'un univers singulier. Eva Jospin, artiste et fille de l'ancien Premier ministre socialiste, expose ses imposantes créations en carton, son matériau de prédilection. Et elle a fait de la forêt son motif artistique fétiche, Isabelle Pasquier.
Les forêts et les ruines en carton d'Eva Jospin sont spectaculaires, mais elles invitent à une intime contemplation. Au musée de la chasse, on pénètre dans une forêt avec des arbres de 4 mètres de haut, mais on se retrouve dans une galerie, une galeria, un long passage à l'architecture baroque. À l'intérieur, un cabinet de curiosité qui abrite d'autres forêts en modèle réduit, vertige de l'échelle des mesures. Les forêts, les ruines imaginaires d'Eva Jospin sont très romantiques, mais elles font écho à la crise climatique.
Si on a un nouvel intérêt pour le romantisme et un nouvel intérêt pour cette question de la nature, en tout cas de la question du paysage, c'est évidemment pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que la question du changement climatique, au-delà d'un militantisme que moi je n'ai pas, crée une sidération profonde, et cette sidération, j'essaie d'en rendre compte. Et dans mes œuvres, il y a aussi parfois une forme qui peut esthétiquement paraître pétrifiée, et je crois que c'est un peu notre état, on est tous un peu pétrifiés.
Dans ces forêts, Eva Jospin brouille nos repères entre vraies fausses natures qui dévorent de fausses vraies ruines, avec lianes, coquillages. Et le plus troublant, c'est qu'avec du simple carton, matériau éphémère et bon pour la déchetterie, Eva Jospin invente d'autres mondes et sculpte le temps.
Galeria, la nouvelle exposition d'Eva Jospin au musée de la chasse et de la nature jusqu'au 20 mars. Super Dupont, le vrai, et l'événement est marquant. Antoine Dupont, demi de mêlée hors du commun de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain, a donc été désigné aujourd'hui meilleur joueur du monde de l'année 2021. Antoine Dupont, joueur insaisissable et surpuissant, a donc gravé en lettres d'or son nom sur un trophée décroché par 2 joueurs français seulement avant lui. Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, avec en ligne de mire la Coupe du Monde en 2023, Alexandre Vaux.
À moins de 2 ans du Mondial en France, les Bleus tiennent leur leader. Antoine Dupont a été logiquement élu au vu de son palmarès cette année. Champion de France et d'Europe avec le Stade Toulousain, vainqueur de la Nouvelle-Zélande avec les Bleus le mois dernier. Un joueur hors norme, capable de traverser le terrain, souligne l'entraîneur emblématique du Stade Toulousain et ex-sélectionneur du 15 de France, Guy Novès.
Antoine est un garçon tellement exceptionnel. Depuis qu'il a démarré le rugby, il pue le rugby, il est capable de faire gagner une équipe à lui tout seul. Donc effectivement, quelqu'un qui fait la différence aussi facilement sur un terrain, on ne peut que penser à lui. Il est en plein boom. Maintenant, à lui de gérer cette carrière qui s'ouvre à lui.
Toto, comme l'appellent ses coéquipiers, est né à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, formé à Auch dans le Gers avant d'exploser à Castres, puis de signer chez le rival toulousain il y a 4 ans. Un garçon humble et discret qui a su forcer sa nature pour se transformer en meneur d'hommes. Le mois dernier, Antoine Dupont a été nommé capitaine du 15 de France en l'absence de Charles Olivon. La tête de gondole du rugby français est devenue une star mondiale, capable même d'attirer le Tour de France l'été prochain dans son village de Castelnau-Magnouac.
Alexandre Vaux, et si je peux participer au débat de tout à l'heure, Claire, il y a souvent du rugby à la télé le vendredi soir.
Je crois que pour vous, c'est tous les jours le rugby, hein. C'est surtout ça la spécialité maison. Allez, bonne soirée quand même, et bonne pantoufle à la maison ce soir. Merci beaucoup Frédéric Barrère, on prend des nouvelles du temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
30 ans agités près des Pyrénées ce soir.
Oui, grande prudence, encore des pluies ce soir et cette nuit. Elles se maintiendront demain mais seront quand même plus faibles. Les cours d'eau réagissent fortement, des inondations et des crues importantes sont en cours, notamment sur le bec du Gave en vigilance rouge. Sur les Pyrénées, attention aux avalanches, il neige vers 1000 mètres et la neige remontera au-dessus de 1800 mètres en cours de journée de demain.
Et attention aux avalanches aussi sur le nord des Alpes.
Oui, vigilance orange, avalanche en effet sur Isère, Savoie, Haute-Savoie. La neige persiste jusqu'à basse altitude cette nuit. Il neigera encore un peu vers 300 à 500 mètres demain matin. Il restera juste quelques flocons l'après-midi. Ailleurs, ce sera plus calme avec quelques gouttes pour la façade ouest. Des éclaircies plutôt agréables du centre-Val de Loire vers le nord de la Seine. Du soleil et du vent en Méditerranée. Et puis attention, le matin, encore quelques gelées dans l'est, donc ça pourrait glisser.
Eh ben dites donc, ça fait pas mal de choses tout ça. Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.